Europe Soir, le 18-20.
On est Isabelle Millet.
On est ensemble sur Europe 1 jusqu'à 20h avec dans un instant le journal et juste après on ouvrira comme tous les soirs le débat du Club des Idées. On vous décrypte le monde qui change. Ensemble on prend le temps de se faire son opinion. Et ce soir, comment empêcher la diffusion d'appels à la haine sur les réseaux sociaux? Quel est l'arsenal législatif? Les intéressés sont-ils prêts à jouer le jeu? On en débattra avec nos invités à partir de 19h20. Juste avant, ce sera la carte blanche du Club des Idées avec ce soir l'économiste Nicolas Bouzou. Mais d'abord le point sur l'info avec vous Christophe Lamar. Il est 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Jamais on n'aurait pu penser ça dans notre ville tranquille. Jamais j'aurais imaginé de voir ma ville passer aux infos pour un tel fait.
Marche blanche en hommage au professeur Paty. Une marche pour dire non à l'obscurantisme et à la barbarie. Nous serons à Conflans-Sainte-Honorine dès le début de ce journal.
Emmanuel Macron, lui, est à Bobigny. Il préside une réunion de la cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire en Seine-Saint-Denis.
Le chef de l'État qui rendra un hommage solennel demain à la Sorbonne. L'Élysée n'a pas choisi l'endroit par hasard. Le détail de la cérémonie dans ce journal.
Le coronavirus continue sa progression. Plus de 2000 patients en réanimation actuellement en France. Les Pyrénées-Atlantiques donnent quant à elle, un sévère tour de vis.
Deux semaines pile avant la présidentielle américaine, nous irons aux États-Unis. Le carnet de campagne de Xavier Yvon.
Et puis le foot, PSG Manchester United, une belle affiche pour le retour de la Ligue des Champions. La météo, Anissa Haddadi, plusieurs départements ce soir, attention, sont en vigilance orange. Hein.
Oui, 12 exactement, Isabelle, placée en vigilance orange, vent fort des Pyrénées jusqu'à l'Isère, en passant par le massif central. La tempête Barbara arrive ce soir et ça va se poursuivre jusqu'à mercredi soir avec des vents forts. Je vous donne tous les détails juste à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est sans doute l'un des hommages les plus attendus avec celui de la Sorbonne demain soir. Conflans-Sainte-Honorine marche pour son professeur.
Oui, une marche blanche qui a démarré il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant devant le collège où Samuel Paty enseignait. On vous retrouve, Pierre Herbulot, vous êtes notre envoyé spécial. Vous êtes en direct de Conflans-Sainte-Honorine.
Oui, la marche vient de partir il y a une dizaine de minutes après des applaudissements, mais surtout plusieurs longues minutes de silence observées par les plusieurs milliers de personnes rassemblées sous la pluie devant le collège, rassemblées en arc de cercle autour de la femme de Samuel Paty. Charlotte a deux de ses fils scolarisés ici, elle est toujours dans un état de sidération.
C'est irréel, on va dire ça comme ça. Jamais on n'aurait pu penser ça dans notre ville tranquille. Jamais j'aurais imaginé de voir ma ville passer aux infos pour un tel fait. C'est pas possible.
Des habitants, des professeurs et des collégiens, ceux du Bois d'Aulne où enseignait le professeur assassiné, mais aussi ceux des autres établissements de la ville, comme Laura et son ami, un bouquet de fleurs à la main, profondément marqué par ce qui s'est passé.
Je pense que ça a affecté beaucoup de gens et savoir que c'est dans notre ville, ça fait mal et on est là pour soutenir les enseignants, nos amis qui sont dans ce collège et parce que pour témoigner notre chagrin et notre peine. Parce que ça touche tout le monde en fait. Et quand bien même on ne connaissait pas ce professeur, c'est quand même dur.
On va déposer les fleurs, la place de la liberté, je pense que c'est symbolique et même je trouve ça vraiment magnifique en fait.
La place de la liberté où la marche doit se terminer d'ici un quart d'heure et où une estrade a été installée, le maire de Conflans-Sainte-Honorine devrait y rendre un dernier hommage à Samuel Paty.
Pierre Herbulot en direct de Conflans-Sainte-Honorine.
Emmanuel Macron, lui, est à Bobigny en ce moment. Le président est à la préfecture de Seine-Saint-Denis pour faire un état des lieux de la lutte contre l'islamisme et le repli communautaire.
Oui, Emmanuel Macron est accompagné de Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur. Le but, vous l'avez dit, faire un état des lieux des actions en matière de lutte contre la menace islamiste dans un département souvent confronté à la montée du radicalisme religieux. Adrien Beck.
Oui, Emmanuel Macron qui vient de présider une réunion de la cellule contre l'islamisme ici à la préfecture de Bobigny. Le chef de l'État sur le terrain veut montrer qu'il prend la tête des opérations. Ici, la cellule contre l'islamisme a fait fermer il y a 10 jours une école clandestine. Et en fait, ces cellules, il en existe dans presque tous les départements. Elles ont fermé 356 lieux du bar à Chicha en passant par des mosquées. Tout ça depuis 2 ans et le début de leur mise en place. On comprend que le message du chef de l'État aujourd'hui, c'est aussi de montrer que depuis le début de son quinquennat, il n'est pas resté les bras ballants dans la lutte contre l'islamisme, ce qu'il nomme le séparatisme. On nous dit qu'on n'a rien fait depuis 2 ans. On a fait des choses, martelait encore il y a quelques minutes auprès de moi un proche du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui veut couper court aux accusations de réponses trop tardives et trop hâtives que formule l'opposition ces dernières heures.
Adrien Beck, du service politique d'Europe 1.
Nous étions à Conflans-Sainte-Honorine au début de ce journal. La ville rend hommage à son professeur. Un autre hommage national, celui-là est prévu demain.
Oui, ce sera en fin d'après-midi à la Sorbonne, dans la cour d'honneur de l'université, en présence d'Emmanuel Macron. Édition spéciale sur Europe 1 demain dès 19h. Le chef de l'État qui tenait à rendre un hommage national donc à Samuel Paty, Jean-Rémy Baudeau. Est-ce que l'on sait ce que l'Élysée a prévu pour le déroulé de cette cérémonie?
Oui Isabelle, ce sera un hommage populaire à hauteur d'homme. Voilà l'ambition de l'Élysée. C'est en accord avec la famille de Samuel Paty que la Sorbonne a été choisie. Un lieu emblématique, explique Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, emblématique de la transmission du savoir et des valeurs. La cérémonie débutera aux alentours de 19h30, vous l'avez dit. Selon son entourage, Emmanuel Macron devrait rappeler les liens qui lient la France et la liberté d'expression, la France et la liberté de conscience. Le savoir libère, l'ignorance opprime, rappelle un conseiller du président. Samuel Paty recevra la Légion d'honneur à titre posthume. Le professeur, sauvagement assassiné, sera par ailleurs fait commandeur des palmes académiques. Une cérémonie d'une petite heure avec des lectures de textes, avec de la musique. Un hommage donc en musique. Selon nos informations, 16 chanteurs du chœur de l'armée française chanteront a cappella le chant funèbre de Rossini que vous entendez. Un temps suspendu dans le fracas de ces derniers jours, une parenthèse dans les luttes politiques. Un hommage de la nation tout entière à ce professeur assassiné par un islamiste vendredi dernier.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Et un hommage que l'on suivra donc en direct demain soir, évidemment, édition spéciale sur Europe 1. L'épidémie de coronavirus continue sa progression et dans certains départements comme les Pyrénées-Atlantiques, on serre la vis, Christophe.
Le département a vu passer le taux d'incidence de 125 à 208 pour 100 000 habitants. On ne sait pas si les vacances et l'afflux de touristes y sont pour quelque chose, mais quoi qu'il en soit, on ferme, dit en substance le préfet. À partir de jeudi, fini les fêtes locales, terminé les soirées étudiantes. Quant aux bars, ils devront baisser le rideau à 22h. Et ça ne plaît pas du tout à Sylvie Tosia, patronne du Corsaire à Saint-Jean-de-Luz.
C'est 60% de mon chiffre d'affaires que je vais perdre sur 15 jours pendant les vacances scolaires. Donc il va falloir essayer de trouver d'autres alternatives pour essayer de moins perdre. On va essayer de compenser un petit peu en faisant de la restauration le midi. C'est sûr que ça ne compensera pas la perte qu'on va rencontrer, ça c'est certain. On vit tous des situations quand même financièrement difficiles. On veut conserver les emplois parce que ça, c'est pour moi, c'est primordial. Mais bon, pas à n'importe quel prix non plus. On essaie vraiment au mieux de faire respecter toutes les normes de sécurité qui nous sont imposées. Et il n'y a pas de clusters qui partent de chez nous. Mais malgré cela, on est quand même visé. On est mis dans le collimateur.
Sylvie Tosia, la patronne du Corsaire à Saint-Jean-de-Luz, au micro Europe 1 de Martin Pinguet.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 19h09. Merci d'écouter Europe 1. C'est la suite du journal de Christophe Lamarre avec Europe 1 au cœur de la présidentielle aux États-Unis, dans les pas des deux candidats de la Maison-Blanche, avec tous les soirs à 19h, le journal de campagne de Xavier Yvon.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump.
And I approve this message.
And I approve this message.
Europe 1 live for the American elections.
Bonsoir Xavier Yvon.
Hello, bonsoir à tous.
Deux semaines pile donc, mais on a le sentiment, Xavier, que l'épidémie de coronavirus, en fait, écrase toute la campagne.
Oui, on approche du troisième pic de contamination aux États-Unis. Quasiment tous les États voient leur nombre de cas augmenter. On en est à 220 000 morts et pourtant, Donald Trump martèle à chaque meeting que la pandémie est presque terminée et qu'il faut arrêter d'en parler.
Pandemic. Les gens en ont marre de la pandémie, non? Vous allumez CNN et tout ce dont ils parlent, c'est le Covid, Covid, pandémie, Covid, Covid. Vous savez pourquoi? Ils veulent que les gens n'aillent pas voter. Mais les gens ne se font pas avoir, pauvres crétins de CNN.
Donc les méchants, c'est CNN, c'est aussi le docteur Anthony Fauci. Vous savez, c'est le monsieur coronavirus des États-Unis, le principal conseiller de la Maison-Blanche pour la pandémie. Il contredit souvent le président. Et voilà ce que Donald Trump a dit de lui hier. Donc les gens en ont marre d'entendre Fauci et tous ces idiots, sous-entendu les experts santé. Le président ajoute aussi que le docteur Fauci est un désastre, qu'il est là depuis 500 ans et qu'il est nul au baseball, sans qu'on sache vraiment si ça a un rapport. L'épidémiologiste est pourtant une référence mondiale. Il a servi 6 présidents et ces derniers mois, il est devenu le visage de la lutte contre le Covid-19, détesté par beaucoup de conservateurs, il est même sous protection policière, et adulé par les démocrates. Chez moi, à Brooklyn, on trouve par exemple des assiettes et des tasses à son effigie. Et sa réponse aux dernières attaques de Donald Trump va un peu plus écrire sa légende. Écoutez.
It's like in The Godfather, nothing personal, strictly business. As far as I'm concerned...
C'est comme dans le film Le Parrain, il n'y a rien de personnel, juste du travail.
Xavier, pourquoi Donald Trump s'en prend-il à ce point à CNN et au fameux Dr Fauci ?
Pas parce qu'il lui rappelle sa plus grande faiblesse, sa gestion calamiteuse de la pandémie. Elle lui est reprochée dans tous les sondages. Le Covid-19, c'est le principal angle d'attaque du camp Biden. Et c'est aussi ce qui a privé Donald Trump de son meilleur argument à lui, l'économie. Elle s'est effondrée à cause de la peste chinoise, comme il l'appelle.
Et on termine, Xavier, avec le chiffre du jour.
34 millions, c'est le nombre d'Américains qui ont déjà voté. C'est possible de le faire par anticipation dans de nombreux États. Ce chiffre est un record. Ça représente déjà un quart du total des votes d'il y a 4 ans.
Merci beaucoup, Xavier Yvon. L'œil de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Merci pour ce journal de campagne. C'est tous les soirs à 19h et je suppose que vous êtes déjà au courant, Xavier, mais la première dame, Melania Trump, a annulé aujourd'hui en raison d'une toux persistante,
oui,
un déplacement en Pennsylvanie où Trump doit participer à ce meeting de campagne. Hein. Elle est toujours malade,
visiblement. Ça devait être son premier déplacement de campagne. Oui.
Et voilà.
Ça devait être son premier déplacement de campagne.
Diagnostiquée positive au Covid-19, on le rappelle, en même temps que son mari. Visiblement, ça ne va pas toujours. Toujours aux États-Unis, le gouvernement américain attaque Google en justice et ça pourrait changer beaucoup de choses, Christophe.
Les autorités américaines accusent le moteur de recherche d'abus de position dominante. En clair, la plainte accuse Google de forcer les consommateurs et les annonceurs à utiliser son moteur de recherche sur les mobiles qui utilisent le système d'exploitation Android. Si l'action va à son terme et si Google devait être condamné, cela pourrait rebattre les cartes pour ceux que l'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple.
La Chine annonce qu'elle enclenche l'avant-dernière phase de mise au point d'un vaccin anti-Covid.
Les autorités chinoises affirment avoir testé 4 vaccins au total sur 60 000 personnes dans le monde. Aucun effet indésirable n'a été signalé, indique le ministère des Sciences et des Technologies. Enfin, le football et la Ligue des Champions pour terminer. PSG Manchester United, c'est l'une des très belles affiches de la soirée, Isabelle.
Et dommage que ce soit à huis clos. Le parc sera vide hein, ce soir, le Parc des Princes, pas comme à Rennes où il y aura au moins 1000 spectateurs. C'est un match qui va se dérouler dans une drôle d'ambiance. En fait, il n'y aura pas d'ambiance du tout, Julien Froment.
Hein. Exactement. Silence, ça joue, couvre-feu oblige. Eh bien, le match, vous l'avez dit, se jouera à huis clos ce soir. Résultat, le parvis du Parc des Princes est désespérément vide. Seuls quelques vaillants supporters sont venus malgré tout supporter leur équipe. C'est le cas de David, capuche sur la tête.
Ouais, c'est très frustrant, ouais, et vraiment, on n'a vraiment pas le choix. Et si on avait vraiment la possibilité, on aurait été à l'intérieur. Et ben là, on fait comme on peut. Hein. Et on essaye de voir ça du mieux qu'on peut.
Voilà, supporté par la pensée et aussi par les messages, on peut lire dans la tribune Auteuil, celle des ultras, continuer de nous rendre fiers, car même sans public, ce match, ça reste une affiche. Manchester United, hein, c'est une équipe qui avait causé bien des soucis au PSG, une terrible élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, c'était en 2019. Thomas Tuchel, l'entraîneur, s'en rappelle bien, il était sur le banc à l'époque, mais depuis, beaucoup de choses ont changé au PSG.
C'est pas un bon souvenir pour nous. Mais beaucoup de choses ont changé. On a fait une saison extraordinaire pendant la Ligue des Champions l'année dernière. Ça a nous donné beaucoup confiance. Maintenant, c'est le défi de recommencer de gagner.
Paris avec Neymar et Kylian Mbappé ce soir. Paris qui a l'habitude malheureusement de jouer sans public. La dernière fois, c'était contre Dortmund, ici même en part, au Parc des Princes. Et ça s'était soldé par une victoire 2-0. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Paris eh bien, pour son entrée dans la compétition.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1 et puis les supporters parisiens qui pourront toujours se consoler en écoutant Europe 1 dès 20h ce soir, émission spéciale Ligue des Champions avec les deux matchs des clubs français, Isabelle, en intégralité PSG Manchester United bien sûr et Rennes Krasnodar.
Merci beaucoup, on suivra ça évidemment, c'était le journal de Christophe Lamarre. On vous dit à demain Christophe, on se tourne vers vous Anissa Haddadi et ça va souffler fort hein, du côté de la météo dans les prochaines heures.
Oui, à cause de Barbara, c'est la tempête qui arrive de la péninsule ibérique et qui est arrivée déjà hein, depuis une heure maintenant sur le golfe de Gascogne, avec ce soir 12 départements placés en vigilance orange pour vent fort. Ça va des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à l'Isère en passant par l'Auvergne. On attend des rafales à plus de 100 km/h dans les terres, jusqu'à 200 km/h sur les reliefs pyrénéens. Sur les plaines toulousaines, les hauteurs du Tarn, les monts du Forez, des rafales là aussi à plus de 110 km/h. Dans la journée de demain, le vent remonte. Ça devait concerner que le sud-ouest et finalement, le vent va remonter jusque sur le plateau de Langres et jusqu'en Lorraine. Alors dans le ciel, demain, sur les Cévennes, il pleut. C'est un petit épisode cévenol demain. En bord de Manche, les pluies s'estompent dans l'après-midi. C'est dans le sud-est, finalement, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il fera le plus beau. Le soleil sera très généreux. Les températures, elles gagnent quelques degrés. Il fait plus doux demain, avec 17 à 26 degrés dans l'après-midi. 17 à Brest, 19 à Nantes, 22 pour Paris, 24 à Marseille et 26 la maximale prévue pour Mont-de-Marsan.
Merci beaucoup, Anissa. Très belle soirée à vous. À demain. 19h15 sur Europe 1. Comme tous les soirs, on ouvre maintenant le club des idées.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes un peu.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
avec d'abord, comme tous les soirs, la carte blanche du jour. Et ce soir, on accueille avec plaisir l'économiste Nicolas Bouzou. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous avez envie ce soir de nous parler de la régulation des réseaux sociaux, dont le rôle, on le sait, est au cœur de l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty.
Et oui, moi je suis un libéral, mais force est de constater qu'il y a malgré tout un problème de régulation avec les réseaux sociaux. Alors c'est pas nouveau, hein, addiction, fake news, harcèlement, haine en ligne, menaces, apologie de la violence et du terrorisme. Ça fait maintenant plusieurs années, a fortiori plusieurs semaines, plusieurs jours qu'on en parle. Et puis je sais pas si vous avez la même impression que moi parfois, mais j'ai le sentiment qu'une banane va être très rapidement censurée parce qu'elle fait vaguement... allusion à un sexe masculin, un ananas va être rapidement censuré parce que ça peut éventuellement faire allusion à un sexe féminin, et en revanche une menace de lapidation va rester tranquillement plusieurs semaines en ligne.
Et là vous parlez de tous les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont tous logés à la même enseigne ?
Non, alors pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre comment fonctionne la modération des réseaux sociaux. En réalité vous avez deux types de modération, vous avez une modération par les algorithmes, par l'intelligence artificielle qui va repérer des mots-clés, qui tourne autour du champ lexical de l'incitation à la haine. Mais ça ne suffit pas, parce que parfois, surtout en français, qui est une langue assez subtile, les algorithmes ne peuvent pas reconnaître une menace. Je vous donne un exemple de phrase. Il vaudrait mieux pour toi que je ne rencontre pas tes enfants. C'est une menace extrêmement violente. Et en même temps, une intelligence artificielle pourrait presque la prendre comme quelque chose de bienveillant. C'est la raison pour laquelle la technologie ne suffit pas. Et vous avez aussi aujourd'hui dans le monde des dizaines de milliers de personnes qui traquent les contenus. Ce sont d'ailleurs des jobs qui sont extrêmement difficiles.
Humains,
parce qu'ils voient les photos des humains, qui voient des photos de pédophilie, de violence, des choses absolument abominables, mais c'est absolument nécessaire. Et en fait, la difficulté, c'est que tous les réseaux sociaux n'engagent pas du tout les mêmes montants en matière de modération des contenus. Alors, il y a une étude extrêmement intéressante qui a été réalisée par la Commission européenne il y a quelques mois, qui a laissé pendant 24 heures des contenus illicites, problématiques sur les réseaux sociaux, et qui a regardé en combien de temps les plateformes les traitaient. Alors, l'un des bons élèves, c'est Facebook, qui en 24 heures avait retiré 87% des contenus à problème. Twitter, en 24 heures, avait retiré simplement 36% des contenus à problème. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté avec Twitter, sachant qu'en plus, 24 heures, c'est très long. Imaginez une Fatoura qui reste 24 heures sur les réseaux sociaux, elle a le temps de faire 10 fois le tour du monde.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Nicolas ?
Alors déjà, il faut se donner les moyens de faire appliquer le droit. La loi Avia introduisait l'idée de contenu haineux, mais en fait, on voit que c'est très difficile de donner une signification précise à ce qu'est un contenu haineux, parce qu'une insulte, quelque chose de tout à fait désagréable, mais ça n'est pas nécessairement quelque chose de haineux. Donc la loi, aujourd'hui, elle existe. Les menaces sont interdites, la diffamation, c'est interdit, les déclarations antisémites, c'est interdit, les appels à la haine, c'est interdit. D'ailleurs, certains de ces délits sont répréhensibles pénalement. Le problème, en fait, comme je le disais, c'est qu'un certain nombre de réseaux sociaux n'engagent pas suffisamment de moyens pour faire respecter ces lois. Alors, du point de vue du droit, ils ne sont pas responsables de ce qui se dit chez eux, parce que ce sont simplement des tuyaux, mais il faut, à mon sens, absolument les obliger à mettre en œuvre des moyens colossaux. Donc il faut qu'une part de leur chiffre d'affaires, qu'une part de leurs effectifs soit dédiée à la lutte contre les contenus à problème, que ce soit vérifié chaque année avec un audit indépendant, et puis que si jamais les engagements ne sont pas respectés, il y ait des pénalités qui soient assez fortes. Et puis ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que quand on est victime d'un appel à la haine ou d'une diffamation ou d'une menace sur les réseaux sociaux, il faut toujours porter plainte. C'est très important parce que la police est très attachée au fait de faire appliquer le droit, pas seulement dans la vie physique, pour ainsi dire, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à porter plainte.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Il est 19h23, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure du grand débat du Club des idées. Alors on en parlait hier, l'islamisme radical a pénétré à l'école, mais aussi les réseaux sociaux. Le gouvernement veut durcir sa réponse. De quelle façon ? Que peut-on faire contre ces messages haineux ? Quel est l'arsenal répressif ? Est-il suffisant ? Les réseaux sociaux jouent-ils le jeu ? On en parle ce soir avec mes invités en direct. Marie Soulez, avocate spécialiste en droit des médias au sein du cabinet Lexing. Bonsoir.
Bonsoir.
Alexandre Archambault, avocat également, spécialiste des questions numériques. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne également avec nous, Jean-Marc Royer, fondateur de Netino Webhelp, qui est un modérateur, et il nous expliquera ce que c'est. Bonsoir.
Bonsoir.
J'aimerais, si vous voulez bien, d'abord qu'on rappelle la législation actuelle pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ce soir. Que peut-on dire ou ne pas dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux et surtout, qui contrôle ce que nous écrivons ? Alexandre Archambault.
J'ai envie de dire que sur les réseaux sociaux, c'est comme dans la vraie vie. On se comporte sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Donc tout ce qui est interdit, ou en tout cas sanctionné dans la vraie vie, l'est également aussi sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on sorte effectivement de ce serpent de mer disant qu'il y a un vide juridique ou une impunité. Non, c'est avant tout, on verra, c'est un problème pas tant de législation que de méthode et de moyens accordés pour que la justice soit au XXIe siècle au rendez-vous.
Et alors qui contrôle tout ça ? Est-ce que chaque plateforme a une veille ? Maître Marie-Solez.
Alors, les plateformes ne sont pas obligées de contrôler les contenus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation, a priori, pour les plateformes de contrôler les contenus qui sont publiés. En revanche, on sait qu'il y a des initiatives qui ont été mises en œuvre, notamment par Facebook ou Twitter, et qui visent, grâce à du développement d'algorithmes, à pouvoir identifier des contenus qui seraient susceptibles d'être ce qu'on appelle des contenus odieux. Donc ça va être effectivement du terrorisme, aussi tout ce qui est pédopornographie et autres.
Alors aujourd'hui, s'il apparaît une discussion avec un contenu odieux ou haineux ou potentiellement terroriste, qui décide actuellement de son retrait et au bout de combien de temps ?
Alors déjà, il faut savoir que la loi a traité ce cas-là depuis 2004. C'est-à-dire que la loi, c'est la loi pour la confiance pour l'économie numérique, précise que lorsque vous êtes un acteur d'Internet, lorsque vous êtes confronté à un contenu qui est manifestement illicite, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'être juriste pour savoir que c'est odieux, que c'est outrancier, que c'est attentatoire à la dignité humaine, vous avez l'obligation, je dis bien l'obligation, de le rendre inaccessible.
Mais le problème, si j'ai bien compris, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité juridique sur ce qui est écrit. Ce sont que des plateformes de diffusion, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas poursuivre.
Alors, ce n'est pas tout à fait la règle. En fait, il n'y a pas de responsabilité juridique à raison des contenus qui sont publiés. En revanche, il y a un processus qui est mis en œuvre, qui est un processus de notification et qui impose aux plateformes, lorsqu'un contenu leur est notifié, qu'il est manifestement illicite, de le retirer. À défaut, elles vont engager leur responsabilité. Et elles ont une deuxième obligation, les plateformes, pareil, elles l'ont depuis 2004, qui est de mettre à disposition des internautes un moyen facilement accessible pour notifier un type de contenu particulier qui est justement ces contenus haineux, donc apologie du terrorisme, pédopornographie et autres. Et là, ils engagent leurs responsabilités, étant précisé qu'aujourd'hui, c'est 250 000 euros d'amende. Enfin voilà, on a des sanctions assez lourdes.
Alors, je ne vous oublie pas, Jean-Marc Royer, vous êtes toujours en ligne avec nous. Je voudrais que vous nous expliquiez le rôle de Netino Webhelp. Vous êtes modérateur, ça veut dire quoi exactement ?
Tout à fait. Ça veut dire que nos clients, qui sont la plupart des grandes entreprises françaises, en particulier beaucoup de médias comme les journaux, comme Le Monde, ou Nouvel Observateur, nous confient la mission d'aller sur leur page Facebook pour s'assurer que au moins sur leur page, pas sur la totalité des réseaux sociaux, mais au moins sur leur page, les propos que les gens tiennent sont conformes à ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire une charte de modération. Et de façon générale, le but d'un modérateur, c'est de faire que tout le monde puisse exprimer son opinion, mais sans s'insulter et sans se menacer.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h31, c'est la suite de notre débat du Club des Idées sur Europe 1. Et on parle ce soir avec mes invités de la question de la diffusion de contenus haineux ou terroristes sur les réseaux sociaux, du rôle et de la responsabilité des plateformes. Alors, on se souvient que le projet de loi de Laetitia Avia avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. C'est un texte qui voulait contraindre les plateformes à retirer sous 24 heures les contenus manifestement illicites, signalés sous peine de lourdes amendes. Les sages ont eu peur que les plateformes suppriment des contenus qui ne seraient pas forcément illicites, dans le doute, pour éviter des sanctions financière. Alors cet après-midi, devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a fait cette annonce. On va l'écouter ensemble.
Nous ne pouvons plus nous résoudre à assister passivement au déchaînement de la haine sur les réseaux sociaux. La censure du Conseil constitutionnel doit nous amener à reprendre ce sujet sous une autre forme qui devra créer un délit de mise en danger par la publication de données personnelles. C'est bien, mes chers amis, monsieur le député, parce qu'il a été nommément désigné par les réseaux sociaux que Samuel Paty a été assassiné.
Est-ce qu'il a raison, Jean Castex ? Est-ce qu'il faut créer un délit de mise en danger par la publication de données personnelles ? Maître Alexandre Archambault.
Alors, j'ai envie de dire qu'effectivement, je n'arrive pas à me résoudre de voir qu'à chaque épisode dramatique dans ce pays, nous avons le concours Lépine de la loi de circonstances et d'émotions qui est ouvert et de plus belle. Parce que ce que Jean Castex préconise, ça existe déjà dans le droit français. L'article 226-22 du Code pénal pénalise la divulgation de données, enfin d'éléments personnels de nature à nuire à autrui. C'est exactement ce qui est arrivé à ce pauvre professeur. Nous avons dans notre droit un arsenal qui permet déjà de poursuivre les personnes qui se rendent coupables de tels actes.
Donc tout ça, c'est de l'affichage, hein. C'est ce que vous nous dites. Jean-Marc Royer, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Alors, déjà, il y a un point qui est très important pour comprendre le contexte de la modération dans le monde et sur les réseaux sociaux. C'est le volume de messages dont on est en train de parler. Rien que pour Facebook seul, sans même parler de Twitter et des autres, c'est chaque seconde un demi-million de commentaires nouveaux qui sont publiés sur la plateforme dans 150 langues différentes. Ça fait 43 milliards par jour, c'est colossal. Et donc, ce qu'il faut, c'est mettre en place des mesures de modération, certes, des mesures juridiques aussi, mais qui soient faisables et applicables, parce que ça ne sert à rien de pénaliser, ça ne sert à rien de mettre de la pression sur les opérateurs tels que Facebook, si derrière, on ne les met pas dans la possibilité de humainement traiter ça. Facebook, ils ont 40 000 modérateurs. C'est la plus grosse équipe de modération dans le monde et de très très loin. Mais même avec ces 40 000 modérateurs humains, ils sont en mesure de traiter une toute petite partie du volume de messages qui sont publiés. Alors, ils sont aidés par des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de faire une partie du traitement, qui permettent d'aider. Malheureusement, il reste encore beaucoup de volume à traiter. Donc, pour parler de la modération, il faut aussi comprendre cette question de volumétrie. Et on l'a dit aussi pour la question de la loi existe déjà. Il y a déjà des moyens de pénaliser un certain nombre de textes, en particulier les menaces de mort. Après, la problématique, c'est qu'on est face à des volumétries de messages haineux qui sont énormes, qui se chiffrent en millions ou en milliards.
Et ça va pas s'arranger avec la 5G, hein.
Oui, ça ne va pas changer malheureusement dans le futur avec les développements des réseaux sociaux. Je peux vous donner un élément, c'est que notre société publie tous les trimestres une étude qui s'appelle le panorama de la haine, où on fait une analyse des propos qui sont dits sur les pages Facebook de nos clients. Et les chiffres qui reviennent, c'est tous les mois une variation, mais qui est en l'ordre de entre 10 et 13% de tous les messages qui sont publiés, qui sont des messages haineux. Donc 10-13%, ça représente des milliards de messages haineux. Presque un message haineux par habitant sur Terre chaque jour. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur du problème auquel nous sommes confrontés.
Marie Soulez, je rappelle, vous êtes avocate spécialiste en droit des médias. C'est quoi la solution ? Alors quels sont les outils concrets qui manquent aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous diriez au gouvernement qui cherche une solution visiblement ? Parce que là, il y a urgence.
Alors, la solution, on la voit un petit peu dans la censure du Conseil constitutionnel, qui est qu'aujourd'hui, il faut trouver un équilibre entre la nécessité effectivement de stopper la prolifération des messages haineux tout en conservant notre liberté d'expression qui est quand même excessivement importante. Et c'est d'ailleurs là qu'est intervenue la censure de la loi Avia, puisqu'on a eu peur que les réseaux sociaux, pour éviter des sanctions, suppriment un petit peu rapidement. Il y a aujourd'hui, et les plateformes l'ont fait et le font depuis quelques années, tout un développement d'algorithmes, des investissements qui sont réalisés par les éditeurs de plateformes et qui, a priori, devraient améliorer une pré-modération sans rendre en même temps les plateformes responsables d'un contenu qui serait publié.
A priori.
Mais dans un système un petit peu mixte, où d'un côté, on ne changerait pas cette absence de responsabilité des hébergeurs, parce que, effectivement, c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est impossible de modérer de valeur absolue l'ensemble des contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux et en même temps inciter au développement des moyens. Et alors il y a une décision.
Et alors, si le problème c'est le volume, est-ce qu'il est possible d'accorder un certain quota de volume à chaque personne, par exemple, de messages?
Alors je pense qu'on ne va pas du tout vers cette orientation-là, surtout que ce serait assez attentatoire à la liberté d'expression. Mais en revanche, il y a une décision qui a été rendue hier par le tribunal de grande instance de Paris qui est assez intéressante parce que pour la première fois, Twitter va devoir, avec plusieurs associations, s'engager dans une médiation judiciaire, l'objectif étant que Twitter fournisse les informations sur la manière justement dont les contenus sont modérés. Donc on va vers plus de transparence.
Parce que pour l'instant, c'est trouble.
Oui. Disons que si on peut prendre une analogie,
Alexandre Chambaud.
Si on peut prendre une analogie, c'est un peu, on est sur le même contentieux en termes de volumétrique, les délits routiers. Est-ce que pour autant, on rend responsables les constructeurs automobiles des accidents de la route, des morts sur la route? Non. Par contre, effectivement, les constructeurs automobiles doivent faire homologuer leur véhicule, ils doivent respecter des normes. Et donc, c'est exactement le point que soulevait ma consoeur, à savoir qu'effectivement, on manque de transparence sur les outils qui sont mis en œuvre par les grandes plateformes. La sphère publique nage totalement dans la compétence, enfin, et dans l'accès à cette information. On est dans une espèce de boîte noire. Et donc, effectivement, il faut que les plateformes ouvrent un petit peu le capot pour qu'on puisse savoir comment ça fonctionne et, le cas échéant, bien évidemment, c'est ce qu'a dit aussi le Conseil constitutionnel et l'Union européenne, dans le cadre d'une approche coordonnée si on veut être efficace, ne sera pas nationale mais communautaire. C'est comme ça qu'on a pu peser sur les grandes plateformes, par exemple sur les données personnelles, avec une approche communautaire où on pourra effectivement les amener à... parce que la responsabilité est collective. Vous avez les plateformes, mais vous avez aussi les pouvoirs publics et nous aussi les utilisateurs.
On poursuit ce débat passionnant dans un instant avec vous, messieurs, dames, sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et on parle ce soir sur Europe 1 dans votre club des idées de l'influence des réseaux sociaux mis en relief par le drame de Conflans-Sainte-Honorine. On a vu combien il était difficile aujourd'hui de tout contrôler et je voudrais qu'on aborde un sujet important, capital même, me semble-t-il, l'anonymat. Il y a de plus en plus de comptes anonymes, certaines personnes en ont même plusieurs. Est-ce qu'une levée de l'anonymat est envisageable? Je vous pose la question, Jean-Marc Royer, je rappelle que vous êtes fondateur de Netino Webhelp qui est un modérateur.
Alors, je vais répondre sous un angle de professionnel de la modération et pas sous un angle juridique de ce qui est faisable et de ce qui est acceptable par l'opinion publique, ce qui est malheureusement un autre aspect. Mais sous un
angle... On a deux avocats avec nous, on leur posera la question.
Oui, voilà, ils pourront. Sous un angle de modérateur, la réponse est oui. Et je dirais même que c'est la seule solution. Alors, pas la levée de l'anonymat dans le sens que il n'est pas utile que les plateformes ou le grand public sachent qui est qui. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les forces de l'ordre, quand elles doivent verbaliser, quand il y a un propos illégal qui est posté, aient un moyen simple et rapide et immédiat de pouvoir avoir l'identité de la personne. Moi, j'ai tout à l'heure, votre invité parlait du droit routier.
Alexandre Chambaud, oui.
Donc, voilà. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux systèmes juridiques en France. Il y a le droit standard qui implique qu'il faut passer devant un juge pour être condamné. C'est adapté à des gros crimes, mais c'est lourd et on peut traiter qu'un petit volume de cas. Et puis, pour les crimes en série, je dirais, les petits délits, pas crimes, mais petits délits en série, il y a le droit routier où on a des infractions en gros volume, des millions pour stationnement interdit, un excès de vitesse. Mmh. On a des petites amendes modestes. Et là, on a une possibilité d'être adapté à un droit qui est adapté à une situation de gros volume. Bah, Internet, c'est un peu ça. On a à peu près la même situation. On a essayé d'appliquer l'ancien droit, celui droit commun, à une situation qui est sur des volumes en millions de litiges. Et ça, c'est pas possible. Le seul moyen, c'est de se rapprocher d'un système qui est celui du droit autoroutier. Votre voiture, elle a une plaque d'immatriculation. Donc, ça vous permet pas, quand vous voyez une voiture dans la rue, de savoir à qui elle appartient. Mais par contre, ça permet aux forces de l'ordre, elles, de retrouver si quelqu'un a commis une infraction.
Alors ça, c'était l'avis du modérateur. L'angle juridique, maintenant, Maître Maryse Soulez, vous en pensez quoi?
De la même manière, c'est prévu dans les dispositions qui sont assez anciennes, puisque ça date de 2004, donc toujours de cette loi pour la confiance dans l'économie numérique, où effectivement, il y a un droit à l'anonymat sur Internet. Alors, c'est un droit à l'anonymat pour les personnes physiques, et qui est tout relatif, puisque en contrepartie de ce droit à l'anonymat, les hébergeurs, donc les plateformes en l'occurrence, vos fournisseurs d'accès Internet, ont l'obligation, eux, de conserver les données qui permettront de vous identifier dans l'hypothèse où un délit, contravention ou un crime serait commis pour que, effectivement, des actions puissent être engagées
Mais aujourd'hui, concrètement, comment ça se passe? Parce qu'on a entendu beaucoup de personnes qui appelaient à faire en sorte que l'anonymat des internautes soit levé tout de suite en cas d'appel à la haine ou d'apologie du terrorisme. Sauf que dans le cas de Conflans-Sainte-Honorine, les témoignages vidéo ils ont été faits à visage découvert. La police a immédiatement pu relier le compte Twitter du terroriste à son identité. Dans ce cas-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein.
Non, effectivement, sur ce cas-là, nous avions effectivement des personnes qui étaient tout ce qui est de plus identifiable. Mais pour répondre à votre question, qui est très pertinente, ça peut être fait en quelques minutes. Et d'ailleurs, je corrigerais un petit peu les propos de ma conjointe, parce qu'on en porte peut-être effectivement, nous autres juristes, une part de responsabilité. Mais non, en fait, il ne faut pas qu'on confonde anonymat et pseudonymat. Il n'y a pas d'anonymat sur Internet depuis 2004, comme le rappelait ma consoeur. Effectivement, chaque intermédiaire technique doit disposer des éléments contribuant à l'identification. C'est un peu le système de la plaque d'immatriculation qu'évoquait notre autre invité. Ouais. Par contre, effectivement, ce qui est garanti, et ce qui est un des supports, une des conditions de la liberté d'expression, c'est le pseudonymat. Malheureusement, on a tendance un peu à confondre les deux. Ce n'est pas parce qu'on est sous pseudonyme qu'on n'est pas identifiable. C'est-à-dire que, regardez-moi, avec ma voiture, j'ai une plaque d'immatriculation, on ne sait pas que c'est Alexandre Archambault, mais les forces de l'ordre savent que si je fais un délit, c'est Alexandre Archambault à qui on enverra la main.
Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on sait tracer une adresse IP et identifier la personne qui est derrière.
Si l'État sait être efficace, en quelques minutes, on peut identifier quelqu'un. Les grands acteurs de l'Internet, les Apple, les Facebook, les Google, mettent en place et ont mis à disposition des forces de l'ordre des pays des interfaces en ligne qui permettent, une fois qu'on est authentifié, bien évidemment, et qu'on parle la langue, enfin voilà, c'est une histoire de coordination. Mais une fois qu'on a mis en place tout ça, on peut obtenir une identification en quelques minutes pour l'adresse IP. Et après, vous couplez ça sur le fournisseur d'accès Internet, les Free, les Orange, les SFR et Bouygues. Et donc, en moins d'une demi-heure, vous êtes en mesure d'identifier quelqu'un, y compris sur les situations d'urgence.
Donc en fait, c'est un faux débat, ces demandes de lever de l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est quoi? C'est des effets de manche politiques?
On est un problème d'acculturation du numérique de la part de nos décideurs publics qui s'obstinent à plaquer sur le 21e siècle des schémas qui datent du 19e et du 20e.
Marie-Soleil,
c'est un problème de moyens.
Vous êtes d'accord?
Oui. oui, je suis d'accord, mais effectivement, c'est un faux débat. Parce qu'en réalité, on le voit dans les affaires qu'on traite, les avocats, ce pseudo-anonymat sur Internet est pas difficile à lever, on a des procédures spéciales qui existent, procédures de référé, des procédures sur requête, et on a cette obligation pour les hébergeurs et les fournisseurs d'accès Internet de conserver ces données-là. Alors effectivement, il y a des procédures qui sont des procédures d'urgence particulières et qui permettent aux services de police d'accéder à ces données. Mais il est vrai que je comprends cette interrogation, puisque ces procédures sont bien entendu peu connues et que la réalité est qu'on voit sur Internet des propos on a l'impression que les personnes se cachent derrière leur pseudonyme pour diffuser toute la haine qu'ils ont envie de diffuser. Et c'est là où effectivement il y a un écart entre la perception par le public de l'Internet et la réalité à la fois technique et juridique.
Il y a une autre question qui me semble intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, on l'évoquait un peu tout à l'heure, avec les algorithmes des réseaux sociaux qui affichent les idéologies avec lesquelles est plutôt d'accord la personne qui se connecte? Quand on voit des dizaines de publications violentes par jour parce qu'on a au départ des idées déjà extrémistes, ça provoque une radicalisation des idées. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Comment est-ce qu'on peut ouvrir à la pluralité? Est-ce que c'est possible?
J'ai envie de dire qu'en fait, c'est une responsabilité qui est collective. Effectivement, c'est passer à côté du sujet de vouloir braquer le projecteur exclusivement sur les plateformes. Elles ont leur part de responsabilité, notamment certaines.
C'est ce que vous nous dites depuis le départ.
Voilà, certaines qui ont un modèle économique qui valorise le clash, les opinions polarisantes, clivantes, etc. Pour autant, effectivement, les pouvoirs publics ont aussi une responsabilité. Par exemple, pour faire en sorte que la justice ne soit plus le parent pauvre de l'investissement public. Parce que pour qu'on puisse effectivement punir les auteurs, il faut qu'on ait des magistrats.
Il n'y a pas assez de moyens, pas assez de magistrats. Ce n'est pas les manques de policiers, c'est le manque de magistrats.
Magistrats, policiers. C'est-à-dire que quand on parle de la chaîne pénale, nous avons la France dépense par habitant moitié moins que l'Allemagne pour sa justice. Et on le voit concrètement. On a une justice qui est débordée, qui ne peut pas poursuivre. Et donc, quelque part, on contribue à un sentiment d'impunité. Faites le test. Hein, allez dans un commissariat pour déposer plainte sur des problématiques de contenu haineux.
On a la fameuse plateforme de signalement Pharos qui dépend de la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité. Elle n'est pas efficace non plus?
Elle est submergée. Pharos traite à peu près 300 000 signalements en rythme annuel sur cette année.
Et là, elle a reçu plus de 500 signalements, je lisais ça, hein, en lien avec l'assassinat de Conflans-Sainte-Honorine. C'est impossible à gérer.
Si, c'est possible à gérer, mais à condition de mettre les moyens.
Et Jean-Marc Royer, le mot de la fin avec vous, peut-être vous qui êtes modérateur. Comment est-ce qu'on fait, du coup, si cette plateforme qui est censée aider à résoudre ces problèmes est saturée?
Tout est une question de volumétrie. On n'applique pas les mêmes méthodes pour une poignée de messages que pour des millions ou des milliards. On parlait qu'il y avait des moyens de faire trouver l'adresse IP de la personne. C'est vrai, mais ça prend du temps. Il faut faire une requête. Il faut automatiser tout pour que pour les forces de l'ordre, avec une équipe qui reste réduite, parce qu'on peut pas mettre des centaines de milliers de gendarmes sur le terrain, ils puissent automatiser pour traiter des millions de messages de manière automatique, des millions de litiges, au lieu d'en traiter un nombre à la main. Il faut accélérer chaque processus, parce que de toute manière, un utilisateur, quand il voit son message supprimé, il en reposte deux derrière.
Et donc, tout est une question de moyens. On a bien compris votre message. À tous les trois, merci Marie Soulez, Alexandre Archambault et Jean-Marc Royer d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté votre éclairage sur ce sujet intéressant et d'actualité. Et je rappelle qu'on attend un premier train d'annonce, sans doute dès demain, sans doute à l'issue du Conseil des ministres.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
On est toujours ensemble sur Europe 1 et dans le Club des idées. On va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1. Le jour où, le 20 octobre 2011, il y a 9 ans, donc, l'organisation séparatiste Basque Théa annonçait la fin de la lutte armée. C'est l'occasion pour nous, ce soir, de revenir sur l'histoire de ce groupe terroriste. Bonsoir Henri de la Guérie.
Bonsoir Isabelle.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Espagne, en direct ce soir de Bilbao, justement. En 2019, donc, Henri, cette annonce de l'ETA est un coup de tonnerre. 2009.
Oui, en 2011, pardon. Écoutez, ce soir-là, sur Europe 1, la réaction de Gorka Landaburu. C'est un journaliste basque et il a été blessé dans un attentat de l'ETA 8 ans plus tôt.
C'est une nouvelle qu'on attendait depuis très, très, très longtemps, même trop longtemps. On a enterré beaucoup d'amis, beaucoup de gens sont morts. Plus de 800 personnes ont été tuées par cette organisation terroriste et qui a mis plus de 30 ans à abandonner les armes.
L'ETA, Euskadita Askatasuna, soit Pays Basque et Liberté, est né en 1959. D'inspiration marxiste, le groupe s'oppose à la dictature. Le premier coup d'éclat remonte au 20 décembre 1973. Le Premier ministre de Franco, Luis Carrero Blanco, est assassiné à Madrid lors d'un attentat à la bombe.
Une explosion fantastique a retenti près de la résidence de l'amiral Carrero Blanco au moment où celui-ci sortait de l'église où il va chaque matin à la messe. Selon les premières nouvelles, le chef du gouvernement, hein, le fidèle parmi les plus fidèles du généralissime, aurait été grièvement blessé. On apprenait plus tard qu'il était mort à la clinique Francisco Franco où il avait été transporté.
Alors à ce moment-là, Henri, l'organisation jouit alors d'une certaine popularité, hein.
Oui, surtout dans les milieux de gauche en Espagne et en France. C'est d'ailleurs de l'autre côté de la frontière vers Bayonne que pendant longtemps, ils trouveront refuge. Après la mort de Franco en 75, le Pays Basque retrouve son autonomie. Et pourtant, la violence de l'ETA ne faiblit pas. Des gardes civils, des fonctionnaires, des entrepreneurs sont assassinés. En face, Madrid fait appel à des paramilitaires légaux pour éliminer des terroristes. Et ce, bien sûr, en dehors de tout cadre légal. Dans les années 80-90, Madrid, Saragosse, Séville, toutes les grandes villes d'Espagne sont la cible d'attentats. Le plus meurtrier a lieu à Barcelone, le 19 juin 87, une voiture piégée explose dans un supermarché. Il y a 21 morts.
L'objectif de l'ETA est de semer déjà la panique en vue des Jeux Olympiques de 1992 qui auront lieu à Barcelone.
Et un tournant majeur, Henri, se produit 10 ans plus tard.
Oui, c'est l'assassinat de Miguel Angel Blanco, un jeune conseiller municipal basque. Il y a des manifestations monstres à Bilbao. La foule scande « Basta ya, ça suffit ». La société basque, relativement complaisante jusqu'alors, tourne le dos à l'ETA. Pour Europe 1, Céline Pigalle avait assisté aux obsèques de Blanco le 14 juillet 1997.
Je pense que ce sera le dernier mort de l'État, la commence de la paix.
Je pense que ce sera le dernier mort de l'ETA, le commencement de la paix. Miguel Angel Blanco repose ce soir dans le cimetière d'Hermua. Un jeune homme glisse la voix nouée. Aujourd'hui, c'est tout le Pays Basque, toute l'Espagne qui a porté son cercueil.
Et malheureusement, non, ce n'était pas le dernier mort.
Non, il y a eu notamment ces deux gardes civils assassinés à Cap-Breton en 2007. La dernière victime s'appelle Jean-Serge Nérin, policier abattu lors d'une fusillade à Damary-les-Lys il y a 10 ans. Après avoir rendu les armes en 2018, l'ETA se dissout et disparaît définitivement le 2 mai 2018. Aujourd'hui, cette histoire reste très douloureuse en Espagne. En témoignent les vifs débats autour de la série Patria qui explore les années sombres de l'ETA et qui sera bientôt diffusée en France sur Canal+.
Le jour où, avec Henri Delaguerre en direct de Bilbao. Merci beaucoup Henri. Et dans un instant,
Europe 1, Isabelle Millet.
Sur Europe 1, donc dans un instant, il sera temps de retrouver Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Isabelle.
Grande soirée foot sur
N'est-ce
Europe 1.
Hein. La Ligue des Champions est de retour sur Europe 1 bien sûr, et pour les clubs français avec deux matchs ce soir. Deux matchs qui concernent des équipes françaises. Le Paris Saint-Germain face à Manchester United avec les commentaires de Julien Froment et Simon Rubin. Et Rennes-Krasnodar, nous serons au Roison Park aussi avec Cyril de la Morinerie. Donc les deux matchs en intégralité. Avec l'analyse en direct et les débats de nos experts, Reynald Pedros, Giroud, Jimmy Algerino, Nabil Djellit. On aura même notre correspondant en Angleterre, Philippe Auclair, pour en savoir plus sur l'adversaire Manchester de Paris ce soir. Grande soirée Ligue des Champions, il faut être là, tout simplement.
Non, jetez plus, je reste sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve demain dès 18h et jusqu'à 21h, hein, puisqu'on sera en édition spéciale à l'occasion de l'hommage qui sera rendu à la Sorbonne à Samuel Paty. À demain. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changé, bien sûr.